Donc, on va commencer le cours Leilou Nishmat.
Yosef ben Hamous Ubeya.
Yosef ben Hamous Ubeya Bismuth. Donc, on est dans l'étude du schéma Israël, dans notre cours sur la Tfila. Jusqu'à présent, on a étudié le premier pasouk du schéma Israël. Donc, le schéma Israël tout court, on l'a déjà expliqué la semaine dernière. On a expliqué aussi le début de Ve'afta et Hashem Elokecha, la mitzvah qui dit tu aimeras Hashem ton Dieu, donc Bechol Levavcha ou Bechol Nafshecha ou Bechol Modecha. Donc on a expliqué longuement qu'est-ce que ça veut dire, qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu avec son bon penchant, avec son mauvais penchant. D'accord ?
Je sais pas, il y a quelque chose dans l'équilibre.
Pas grave. Maintenant on est au pasouk Ve'ayu Adevarim Ha'ele dans le schéma Israël. Pas grave.
J'écoute, hein.
Donc le pasouk dit la chose suivante. Il dit Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de l'aimer de tout notre cœur, comme on a dit, de tout notre argent et de tout notre pouvoir. Ça veut dire qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour aimer Akadosh Baruch Hu. Même si on nous demande notre vie, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha. Ces choses que je vais t'ordonner, que je t'ordonne et que je vais t'ordonner, ils seront ayom aujourd'hui, al levavera sur ton cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Rachid dit que, quand on dit qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne faut pas que quand on étudie la Torah, on ait l'impression que c'est une vieille notice qui a été laissée, ça fait 2000 ans. Il faut qu'on ait l'impression comme si qu'elle nous était donnée aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans le schéma Israël, on dit, Ve'ayu adevari ma'ele. Ces choses-là, ça doit être ayam, comme si Akadosh Baruch Hu nous les a donné ayam aujourd'hui.
Par rapport au deuxième paragraphe.
Qui dit qu'il y a une différence?
Non, je sais pas. Je sais pas.
Pour l'instant, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est le même concept. Sauf que le deuxième paragraphe du schéma, c'est une répétition du premier. C'est à peu près, quoi. Il y a des petits rajouts, mais c'est une répétition. Donc le ayam, a priori, veut dire la même chose. Rachid, là-bas, dans le deuxième paragraphe, il ne s'arrête pas sur Ayom. Il s'arrête que sur le schéma Israël. Dans le Ve'afta, là-bas, il s'arrête sur le Ayom. Il dit que de là, on apprend qu'il ne faut pas que ce soit comme, Rachid dit, comme une Yutma Yeshana. C'est-à-dire comme un vieux testament que Dieu nous a laissé. Il faut qu'on ait l'impression que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah aujourd'hui. D'accord ? Alors, le Zohar nous dit sur la chose suivante, sur le pasouk Vayu Adevarim Ha'ele. Il essaie d'expliquer ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire quand on lui dit que ces choses-là seront toujours sur ton cœur? Ça veut dire quoi en clair? On comprend pas, nous. En clair, ça veut dire quoi? Tu me dis avoir une mitzvah sur mon cœur. Ça veut dire quoi? Alors le Zohar dit la chose suivante. D'accord? Le Zohar dit la chose suivante. Il dit que, étant donné qu'on sait très bien qu'on a tous un Yetzer Hara, un mauvais penchant, le Zohar nous dit la seule arme qu'on peut avoir contre le Yetzer Hara, c'est le Divrei Torah. C'est la parole de Torah. Et c'est pour ça, hein, en vérité, quand la Torah nous dit que ces choses-là devront être constamment sur ton cœur, c'est une technique que la Torah est en train de nous donner. Comment combattre le Yetzer Hara? On nous dit que si tu veux combattre le Yetzer Hara, sache que la seule technique, c'est d'étudier la Torah. Quand tu sens que le Yetzer Hara est en train de te prendre et tu sais pas quoi faire, la seule technique, c'est d'ouvrir un livre, d'étudier la Torah, et ça, c'est le poison qui va tuer le Yetzer Hara. Mais sinon, on pourra pas être tranquille. Ça, c'est le sens du verset. Ça ne change pas de t'approcher, je t'entends pas bien.
Si on n'a pas de livre et qu'on est seul.
Oui. Si on n'a pas livre, ça veut dire quoi? On réfléchit à un Dvar Torah. C'est la même chose. L'essentiel, c'est d'avoir la tête dans les Divrei Torah. Et c'est ça le sens du verset. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha ayom. Toutes les choses que je t'ordonne, donc toute la Torah, ils seront ayom aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que tu aies conscience comme si c'est quelque chose de nouveau. Al levavecha, sur ton cœur. Près de ton cœur. Même en français, quand on dit que quelque chose est près de son cœur, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on y pense constamment. Et c'est pour ça qu'on te dit que Al Levavecha, il faut y penser constamment si on veut combattre son Yetzer Hara. Ensuite, il continue le passage qui dit Veshinantam Levanecha Vedibartabam. Tu l'enseigneras à tes enfants. Donc la Torah que tu vas apprendre, tu as l'obligation de l'enseigner à tes enfants. Vedibartabam, et tu devras en parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Veshinantam? Veshinantam, on l'a dit, ça veut dire que tu les enseigneras. Nous, on connaissait le mot aussi Velimatemotam, comme il y a dans la deuxième paragraphe du schéma. Pour dire enseigner en hébreu, on peut dire ou l'élamed, d'accord? L'élamed enseigner, ou on peut dire aussi les shanen. Alors, c'est pourquoi on a choisi le terme les shanen? Les shanen, ça vient du mot aussi Mishnah. Rashi explique les choses suivantes. Il dit que pourquoi on dit Veshinantam, c'est pour nous apprendre que la différence entre Limoud et Shinoun. Limoud, c'est quand j'étudie quelque chose, mais que je ne le connais pas parfaitement. C'est-à-dire que tu peux me bloquer. Alors que Shinoun, c'est quand j'ai tellement répété la chose que la chose, comme Rashi dit, est aiguisée dans ma bouche. Ça veut dire que c'est vraiment sur un blocage, on ne peut pas me bloquer. Et quand on dit Veshinantam Levanecha, ça veut dire quoi? C'est Bismuth.
Inculqué.
D'accord? Ça veut dire quoi? Non, c'est plus inculqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit, il faut que ce soit fluide dans notre bouche. Il faut qu'on soit, il faut que dès qu'on nous parle d'un Dvar Torah, il faut qu'une parole de Torah soit fluide dans notre bouche. Vedibar Tabam. On a dit Vedibar Tabam, ça veut dire quoi? Ça veut dire Vedibar Tabam, tu devras en parler. Ah, bien sûr, je devrais en parler. J'en parle de quoi? Alors, le Rashi explique sur ça aussi, il explique Vedibar Tabam. Il dit que, ça veut dire qu'on a l'obligation de parler un maximum possible de divrei Torah et pas d'autre chose. Je ne parle pas de parler d'Averot, c'est sûr que c'est assaut. Ça y est. Allez. Il nous reste encore 20 minutes. Ben on va étudier la fila.
Ah d'accord, avec le
Sidour. On va suivre dans les mots. Du coup, vous les avez embrouillés avec votre croissant gris, hein? Allez.
Ah.
Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Vedibar Tabam. Qu'est-ce qu'il dit? Veshinantam Levanecha, ça veut dire qu'il faut qu'il soit fluide dans notre bouche, et il faut l'enseigner à ses enfants. Vedibar Tabam, d'accord? Vedibar Tabam, on a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la Torah soit quelque chose de fixe, il faut en parler constamment, de la Torah. Et pas perdre son temps à parler d'autre chose. Alors, il y a un commentaire ici de... Il amène un commentaire du Rav Avraham, le frère du Gaon de Vilna, qui dit la chose suivante. Un commentaire très intéressant. D'accord ? Il dit comme ça. Il dit que Vedibar Tabam, dans le Vedibar Tabam, Bam, c'est bête et même. D'accord ? D'accord ? C'est quoi bête et même ? Bête, ça correspond au début de la Torah écrite. Bereshit, Bara Elohim. Et même, ça correspond au début de la Torah orale. C'est quoi le début de la Torah, orale? On l'a pris hier. Même Matai, Korin et Shema. À partir de quand on lit le Shema? D'accord? Donc, Vedibar Tabam, comme c'est un commentaire qui vient, je l'avais entendu ailleurs, mais là j'ai la référence. Donc, c'est de Rabbi Avraham, le frère du Gaon de Vilna.
Et Bam, ça veut dire? Bam,
ça veut dire en eux. Ça veut dire, on devra parler de la Torah. D'accord? Ça veut dire, alors justement, ça veut dire quoi en eux? Proximité en eux. De là, Rashi explique, ça veut dire qu'il faut être concentré un maximum de temps en eux, dans la Torah. Et pas dans les autres choses.
Alors, intégrer, ça veut dire ça.
Oui. Non, c'est pas seulement intégrer.
En eux.
Intégrer, c'est Veshinantam. Veshinantam Levanecha, on a dit qu'on doit l'intégrer de manière à ce que ça devienne fluide. Ouais. Ça, c'est Veshinantam. D'accord? Vedibarta, c'est encore autre chose. Vedibartabam, ça veut dire qu'il faut parler un maximum de temps de la Torah. C'est-à-dire que même quand on a un temps libre et que, bon, à la limite... J'ai pas vraiment le temps d'étudier la Torah. Vedibar Tabam, ça veut dire qu'un maximum de temps, dès que j'ai un instant de libre, il faut parler de la Torah.
À chaque fois qu'on parle, on est à l'intérieur.
De... Voilà.
Donc,
il faut être. Ça veut dire qu'il faut essayer toujours de faire un rapport avec la Torah, même quand on est dans autre chose, même quand on est dans ses affaires. Dès qu'on peut glisser un Dvar Torah, dès qu'on peut glisser un cours de Torah, dès qu'on peut écouter un cours de Torah, on accomplit la mitzvah de Vedibar Tabam.
Ouais,
alors. Beshiftecha bevetecha, tu devrais en parler donc Beshiftecha bevetecha. Lorsque tu seras installé bevetecha dans ta maison. Alors, Beshiftecha, ça c'est ils expliquent les commentaires. Beshiftecha, Beshiftecha ça veut dire quand on est dans les affaires. Quand on est dans les affaires. Quel rapport avec les affaires? Parce qu'on voit que c'est écrit dans la Torah chaque fois qu'on parle des affaires. Chaque fois qu'on parle des affaires, d'accord? C'est écrit par exemple Batim Tovim Tivne Veya Shafta, ou bien Veya Jvoubaret et Israrot, enfin plusieurs exemples qu'il amène ici, qu'on voit que chaque fois qu'on parle de commerce, très souvent on ramène le terme la chevette. Bien que la chevette en hébreu ça veut dire s'asseoir, Yoshev en hébreu ça veut dire quelqu'un qui s'assit, qui s'assoit. D'accord? Mais ici il amène une preuve que quand on dit Veya Shafta dans la Torah, ça veut dire être dans les affaires. Et on te dit que tu devras essayer de placer un Dvar Torah partout. Beshiftecha, ça veut dire lorsque tu seras dans tes affaires. Bevetecha, lorsque tu seras chez toi à la maison. Donc là, on a pris deux situations dans lesquelles on n'a pas envie d'étudier. Quand on est au travail, on n'a pas envie d'étudier. Et quand on est à la maison, on n'a pas envie d'étudier. On préfère rester peinard et se reposer. Quand on est à la synagogue, on veut bien étudier. C'est facile. Là, il te dit non. Beshiftecha, bevetecha. Lorsque tu seras dans les affaires, et lorsque tu seras chez toi à la maison.
Un temps prochain.
D'accord. Ça n'est pas fini. Ouvler techa va derer. D'accord. Même lorsque tu marcheras dans le chemin, c'est-à-dire comme ça. Les commentaires expliquent qu'une personne va dire comme ça. Il va dire, ok, je veux bien étudier quand je suis dans les affaires, mais il y a affaire et affaire. Quand je suis assis dans mon bureau, je veux bien que je peux prendre un moment pour étudier un peu de Torah. Mais quand je suis dans la voiture, quand je suis dans la route, quand je suis occupé, quand je prends le train, quand je prends ma calèche, d'accord ? Là aussi, tu veux étudier la Torah, je suis occupé, il y a affaire, il y a affaire. Qu'est-ce qu'il te répond ? Il te dit, ouvler techa va derer. Même lorsque tu marches dans le chemin, d'accord ? Il faut toujours essayer d'avoir un Dvar Torah. Pourquoi ? D'ailleurs, la Mishnah, elle dit, d'accord ? Elle dit sur ça, elle dit que lorsqu'une personne marche et qu'il pense quelques instants à Dvar Torah, Akadosh Baruch Hu l'accompagne. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, on a dit plusieurs points. Vous savez, le premier paragraphe du schéma, il est particulièrement concentré.
Yosef ben Beya.
Le premier paragraphe du schéma, il est particulièrement concentré. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit qu'il fallait servir à Kadosh Baruch Hu, même avec son Yetzer Hara. Ça veut dire que nos mauvaises pulsions, il faut les transformer en bien. On a dit qu'il fallait donner tout son argent pour servir Dieu. On a dit qu'il fallait donner même sa vie pour servir Dieu. Et là, on rajoute. D'accord ? On a rajouté aujourd'hui. Aujourd'hui, on a rajouté qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est quelque chose d'actuel, ayom, d'accord, c'est quelque chose d'actuel, quelque chose de constant. Et pas seulement ça, la Torah, il faut qu'on la révise tellement que ça devient fluide dans notre bouche. Il faut l'enseigner levanecha à nos enfants. Vedibar tabam, on a dit, ça veut dire que il faut en parler un maximum de temps dès qu'on a un moment. Il faut que notre focus soit sur ça. Ensuite, on a dit que partout, quand on est dans les affaires, quand on est à la maison, même lorsqu'on est en chemin, il faut étudier la Torah. Et enfin, comme on l'a dit hier, ouf shor becha, ouf kumecha. D'accord ? Ouf shor becha, ouf kumecha, ça veut dire quoi ? Donc ouf shor becha, ça veut dire lorsque tu iras dormir. D'accord ? Ouf kumecha et lorsque tu vas te lever. Alors littéralement, ouf shor becha, ouf kumecha, ça veut dire lorsque tu vas dormir, lorsque tu vas te lever. Donc c'est de là qu'on a appris l'obligation de faire le schéma du soir et le schéma du matin. On a toujours un donc du Rabbi Avraham que je lis tout à l'heure. Il a un commentaire intéressant sur Beshar Becha ou Kumecha. Il dit que Beshar Becha ou Kumecha, ça veut dire la chose suivante. Beshar Becha, ça veut dire quoi lorsque tu vas te coucher ? Ça veut dire lorsque les affaires ne vont plus. Lorsqu'on se couche, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire lorsque les affaires ne vont plus. Et lorsque les affaires ne vont plus, on te dit que... Ne te dis pas, les affaires ne vont plus, alors où est Akadosh Baruch Hu, donc je préfère ne pas y penser. Non. Beshar Becha, lorsque tu te couches, lorsque tu vas dormir, d'accord ? Même si tu as des souffrances, il faut penser à Dieu. Ouf kumecha, c'est quoi ouf kumecha ? Explique toujours le. C'est lorsqu'on remonte. Et là, encore une fois, lorsqu'on remonte, on dit bon ben. Maintenant j'ai plus besoin de Dieu, entre guillemets. Phrase de shalom.
C'est plus évident quand ça remonte.
Connaissez la blague, celui qui cherche une place, il tourne autour de la synagogue, il cherche une place.
Ouais.
Par religieux, bon. Il cherche une place. Et il trouve pas. Il tourne une demi-heure, il trouve pas de place. Alors il se tend vers un kadosh baruch hu, il lui dit je t'en prie Dieu. Si tu me trouves une place, je viens tous les matins à la synagogue. Il avance 30 secondes, il trouve une place. Il se lève vers Dieu, il dit, c'est bon, te dérange pas, j'ai trouvé. C'est ça, Oukoumecha. Oukoumecha, ça veut dire, lorsqu'on se lève, alors on oublie Akadosh Baruch Hu. Donc, Beshor Becha, Oukoumecha. Donc, ce qu'il veut nous dire ce pasouk, c'est que, en vérité, il faut avoir la tête dans la Torah, un maximum de temps. Alors bien sûr, on sait très bien ce que dit la Gemara, que En Akadosh Baruch Hu, Babitrounia, Imbriotav, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne demande pas à ses enfants ce qui est inaccessible. Bien sûr, bon, quand on est au travail, on est au travail. La seule chose qu'on nous demande, c'est que dès qu'on a un moment de libre, dès qu'on a un moment de libre et qu'on voit qu'on peut écouter un petit peu un cours de Torah, voilà, maintenant il y a des gens, ils ont les MP3, ils ont tout, on peut écouter un cours de Torah, on peut lire un petit Dvar Torah. Il faut, c'est une mitzvah qu'on le fait, la mitzvah de Vedibar Tabam. Vedibar Tabam, qu'un maximum de temps, d'accord,
voilà.
On est connecté avec un Dvar Torah. Il ne faut pas se dire, moi j'étudie la Torah quand j'ai une heure devant moi, mais si j'ai 5 minutes, je peux pas. Non. On dit même quand on est dans le chemin. Vous savez très bien ce que... Alors, je vais expliquer la différence. La différence, c'est que, on sait très bien que Yaakov Avinu, lorsqu'il a envoyé ses enfants en Égypte, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, Al tirgezu badarech. Il leur a dit, ne vous énervez pas en chemin. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Qu'est-ce qu'il leur a dit, en vérité ? Rashi dit qu'en vérité, il leur a demandé de ne pas étudier d'Alacha dans la route. De ne pas étudier d'Alacha dans la route. Pourquoi ? Parce que dans la nature de la Alacha, on est obligé d'arriver à une conclusion. Et dans la nature des choses, c'est sûr qu'il y en aura un qui ne sera pas d'accord avec l'autre. Donc du coup, il risque de se tromper de route. Ça veut dire qu'il y a des Alachot particulières sur la route. Il y a même une amida particulière quand on est sur la route. Quand on est sur la route et que c'est dangereux, il y a une amida raccourcie. Donc il y a une halakhot particulière. On te dit, même si tu es dans la route, et que normalement tu devrais être, tu dispenser d'étudier la Torah, on te dit non. Dès que tu peux penser à un dvar Torah, dès que tu peux penser à une parole de Torah, tu peux penser à une parole de Torah. On avait appris dans un yom-yom, il y a quelques temps, on avait appris que quand on marche dans la rue, il faut s'efforcer, voilà maintenant on apprend la Mishnah, tous les mardis, il faut s'efforcer de répéter une Mishnah. C'est-à-dire il faut s'efforcer d'apprendre par cœur une Mishnah, peut-être pas dans les mots, mais au moins dans le sens, et de se la répéter dans la rue. D'accord ? À quoi ça sert ? On gagne plusieurs choses. Tout d'abord, ce qu'on gagne, c'est qu'on a la tête occupée. Et quand on a la tête occupée, on ne regarde pas des bêtises. Mais deuxième chose qu'on gagne, c'est que c'est écrit que Mishnah, c'est les mêmes lettres que Neshama. C'est les mêmes lettres. Mishnah, c'est les mêmes lettres que Neshama. Et quand on réfléchit à une Mishnah dans la rue, ça purifie l'atmosphère de la rue. Et plus tard, quand on arrivera en haut au Gan Eden, et que bon, je ne suis pas un sadique, d'accord, donc on devra recevoir une punition. Et bien, c'est écrit que celui qui a étudié des Mishnahs quand il était dans la rue, ça le sauvera de beaucoup de punitions. Ça le sauvera de la punition de Kafakela. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette punition parce que c'est... vous êtes encore en train de manger.
C'est chaud.
Donc, qu'est-ce qu'on dit ici ? Un maximum de temps, il faut essayer de penser d'avoir un Dvar Torah dans la tête, de réfléchir à quelque chose, même une seconde, même deux secondes, juste avoir une pensée de Torah dans la tête. Ensuite, Ukshartam Lehot Adiadecha. Ces paroles de Torah, tu devras les attacher également en signe Aliadecha. Donc Aliadecha, ça veut dire sur ta main. Non, attends, j'ai perdu la ligne. Voilà. Ukshartam Lehot Adiadecha. Tu devras les attacher donc en signe Aliadecha sur ta main.
C'est le bras, non ?
Donc on parle de des téphilines qui sont sur le bras. Alors ça, c'est les Chachamim qui ont expliqué. Parce que sachez qu'il y avait des Sadducéens qui disaient, nous on met les téphilines sur la main. Ah oui, c'est écrit sur la main.
Ouais.
Et sur la main, d'après quelle main ils ont choisi d'après vous, la main droite ou la main gauche ?
La droite.
Bah, ils disent, pour nous c'est la main droite. Il dit la main, je prends la main droite. D'accord ? Alors qu'en vérité, les Chachamim m'ont expliqué que c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on dit Aliadecha, de quoi on parle ? Quand on parle de la main, ils ont reçu de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il faut comprendre, quand on dit la main, il faut comprendre le bras. Il faut comprendre l'avant-bras. Enfin, l'avant-bras, le haut du bras, quoi. D'accord ? Ils ont compris aussi d'où on sait que c'est la main gauche. Parce que dans la paracha qu'on lit, enfin, dans la paracha que... moi, je le lis après la tefila, hein, je crois que dans le Patach Eliyahu, c'est juste avant le... Patach Eliyahu, c'est juste avant Baruch Shamar. Hein, monsieur
non,
Daniel ?
C'est pas juste avant. C'est même avant...
C'est où le Vaïdaber, hein ? Kadesh Likol Bechor ?
Ouais, c'est au début.
Pachet. Ah, d'accord.
Après...
voilà. Alors vous voyez dans le ici, c'est que c'est. Ah oui, ici ils l'ont mis directement comme on le lit. Bon, d'accord. Voilà. Vous prenez la page 8 si vous voulez dans le Patach Eliyahu. Et dans le Patach Eliyahu, le dernier verset. Ve'aya le'ot aliyadecha. C'est écrit là-bas, il sera en signe aliyadecha sur ta main, donc comme chez nous. Mais sauf qu'il y a une différence, c'est que nous, dans le schéma Israël et partout, Yadecha, c'est écrit Yud Dalet Chaf. D'accord ? Et là, hein, c'est écrit Yud Dalet Chaf He. C'est la seule fois dans la Torah où c'est écrit comme ça.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est écrit, dans la grammaire, c'est écrit pas comme ça. Yadecha, c'est écrit Yud Dalet Chaf. Chaf Sofit. Et là, c'est écrit Yud Dalet Chaf He. Alors, le Chachamim s'arrête dessus, Rashi explique. Il dit qu'en vérité, c'est une allusion que la Torah veut nous faire. En vérité, c'est comme si qu'il y a deux mots ici. C'est comme si qu'il y a écrit Yad, Kehe. Yad, ça veut dire la main. Et Kehe, ça veut dire faible. La main faible. Donc la main faible, c'est quoi la main faible ? C'est la main gauche. Pour le gaucher, sa main faible, c'est quoi ? C'est la main droite. C'est de là qu'on apprend, c'est ce pasouk-là. Mais comme je vous dis, c'est...
Et on ne le prononce pas pareil. Là, on le prononce Yadera et l'autre Yadra.
Yadra, ouais,
voilà,
c'est vrai.
On saute là.
Donc... donc on reprend notre schéma Israël, je sais pas c'est quelle page, bon. Page 57. Ukshartam le'ot aliyadecha. Tu devras les attacher. Donc là, c'est de là qu'on sait que les téphilines doivent être attachées. Le'ot en tant que signe, aliyadecha, sur ta main. Donc on a expliqué que la main, en vérité, c'est le bras.
Et pourquoi c'est pas marqué le bras de...
Ah, c'est une bonne question que vous posez. Il y a plein d'endroits dans la Torah comme
c'est
ça.
C'est un bidon, mais...
Je sais pas. Enfin, je sais pas.
Réponse,
je sais oui, mais bon. Ouais. C'est écrit, le Midrash... Tantrouma, il ramène la chose suivante. Il dit que Rabbi Lézer, il dit la chose suivante. pourquoi Kadosh Baruch Hu, je crois que je l'ai déjà répété plusieurs fois cette phrase de Rabbi Lézer. Il demande, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que tout ce qui vient du nord est tordu. Dans la Torah, on dit que le vent qui vient du nord, c'est un mauvais vent. En général, tout ce qui vient du nord, c'est un problème, c'est pas le nord. D'accord ? C'est le froid, c'est le nord. Alors, comment ça se fait ? Et là-bas, Rabbi Lézer répond, il dit que c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait exprès. Comme ça, si un jour, quelqu'un il va dire, c'est pas Dieu qui a créé le monde. C'est pas Dieu qui a créé le monde. Le monde s'est créé tout seul. D'accord ? Ou bien nous, on a créé le monde. Alors, Kadosh Baruch Hu, il va lui répondre, il va lui dire, ça tombe bien. Il y a un coin que j'ai laissé et que j'ai pas fini, est-ce que tu veux pas le finir ? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a fait exprès de laisser des imperfections dans le monde. On avait étudié une sikha il y a quelques années, dans laquelle le rabbi expliquait qu'on peut dire la même chose par rapport à la Torah. Que dans la Torah, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous paraissent imparfaites, voilà, comme ici. Tu dis la main, pourquoi tu dis pas directement, tu dis la main, pourquoi tu dis pas directement le bras ? Il y a beaucoup d'endroits où la Torah fait exprès de laisser des points qui sont incompréhensibles. Ou même des fois des contradictions pour nous montrer qu'on est obligé de faire appel au Chachamim. Comme ça, si un jour quelqu'un va dire non, moi la Torah je la comprends tout seul, on va dire ah oui, je la comprends tout seul, alors explique-nous les contradictions. C'est fait exprès. D'accord, bon. Alors, Ukshartam, on referme la parenthèse. Ukshartam leot ayadecha, ve'ayu le tetafot benenecha. Donc, tu les attacheras, on a dit, donc en tant que signe, ayadecha sur ta main. Alors, en passant, les tefilines sont appelées ici un signe distinctif. D'accord, hot. C'est pour ça que le Shabbat on appelle les tefilines. Pourquoi le Shabbat on appelle les tefilines? Parce que c'est écrit que qui hot i beni ou venechem. Sur le Shabbat, on dit que le Shabbat c'est également un signe. Donc dès qu'on a un signe, on n'a pas besoin d'un deuxième signe. C'est un signe distinctif. Dieu dit, je veux que vous ayez un signe sur vous.
Non, on m'a dit d'accord. On dit pas les deux signes, que le Shabbat on avait les deux signes.
Oui.
On a parlé à Mila et l'autre.
Et les femmes.
Je parle comment le tefiline est remplacé.
Non, mais l'homme il inclut la femme.
Donc Ukshartam le hot ayadecha. On devra les attacher donc en tant que signe à Yadecha sur la main, sur le bras. Ve'ayu le totafot ben enecha. Et ils seront en totafot, on va expliquer ce que c'est totafot, entre tes yeux. Alors là, pareil, encore une fois, on a encore ici une imprécision. Qu'est-ce que ça veut dire entre les yeux ? Tu me dis, les téphilines, ils seront.
Ouais.
Donc, ils seront en totafot, on va expliquer ce que c'est entre tes yeux. C'est quoi entre tes yeux ? Alors les sadducéens qui s'avaient compris, ils avaient compris encore plus simple. Ils accrochaient les téphilines sur le mur. Et il y avait une paire de tefilines pour tout le monde. Et tout le monde priait. Il dit oui, c'est entre nos yeux.
En regardant.
D'accord, en le regardant.
Fixant la paire.
Alors, et même si tu vas me dire que je dois le mettre sur moi, entre les yeux. D'où on sait que c'est sur la tête. D'accord, nous comment on les met ? On les met sur la tête. D'accord ? Mais dans la ligne droite. Entre les yeux. Mais c'est pas entre les yeux. Ça, c'est les Chachamim qui ont appris. Ça, c'est une chose qui n'est pas écrite dans la Torah. C'est une chose que les Chachamim ont appris. Ils ont reçu directement de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Il y a des choses qu'ils ont reçues. Ils ont reçu qu'il faut comprendre que quand c'est écrit entre tes yeux, ça veut dire sur la tête, d'accord, mais au niveau entre les yeux, au niveau du nez. Donc c'est quoi totafot, d'accord? Alors totafot, il y avait totafot, c'est pas en hébreu ni en araméen. Alors c'est en une langue qui s'appelle Kitfé. D'accord, attendez.
Du peul.
Il y a africain. Alors en africain. Pour dire deux, on dit pat. Et en kitfé, d'accord ? En kitfé, je sais pas.
Le chiffre
2. En kitfé, je sais pas ce que c'est kitfé. C'est une langue qu'on connaît pas aujourd'hui.
C'est un dialecte.
Peut-être les historiens l'ont retrouvé, mais bon, je connais pas. Non, c'est aucun rapport avec les Africains. En kitfé, pour dire deux, on dit tat. Donc tat et pat. Tat, pat. Totafot. C'est la même racine que totafot. Enfin, encore une fois, si les Chachamim nous l'avaient pas dit, on était très loin. Donc, Ukshartam leot ayadecha, on a dit, Vehayu le totafot benenecha. Donc, ils devront être en totafot benenecha entre tes yeux. Alors, le shla kadosh. D'accord ? Vous savez, le shla, il a son.
Comment on traduit totafot alors ?
Totafot, ça veut dire deux et deux.
Totafot.
Alors, c'est un peu. Bon, comme Yusuf Bismuth dit, c'est un peu spécial quand même. Pourquoi on dit pas en hébreu ? Quatre et c'est tout, c'est quoi cette histoire ? Alors le Shla Kadosh, vous savez, la tombe du Shla Kadosh, c'est juste à côté du. C'est juste à côté de la tombe de Maïmonide, à Tibériade. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, ces deux mots-là, d'accord, en vérité, c'est des mots en hébreu. Mais c'est des mots qui ont été perdus de la langue hébraïque. Dans la. Pardon ? Non, à côté, juste à côté. Oui, c'est le même cimetière, oui, mais bon, enfin, c'est deux sections différentes.
Mais c'est pas petit. Un cimetière, Maïmonide. Ah, au bord du lac.
Ah, c'est devenu un cimetière, il y a 20 tombes là-bas.
Ah ouais?
Bien sûr.
Il y en avait 3 à l'époque.
Et les élèves de Rabbi Yochanan et ses 5 élèves, il y a...
C'est plus loin.
Il y a une doucha extraordinaire dans ce qu'il y a là-bas. Ah, c'est un des Gvarim qui m'a le plus marqué en Israël. C'est une concentration de Gvarim. Vous avez... Enfin bon. Alors, le Shlach Kadosh dit la chose suivante. Il dit que en vérité, ces deux mots, Tat et Pat, c'est des mots qui, à la base, qui faisaient partie de la langue hébraïque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien qu'il y a eu Dor HaFlaga. C'est la génération qui ont dit on va construire la tour, etc. Bon. Et Kadosh Baruch Hu les a punis. D'accord? Donc la tour de Babel les a punis. Il a dit on va vous séparer parmi les... On va vous séparer. Et il leur a donné des langues différentes. Et ce que nous apprend le Shlach Kadosh, c'est qu'il y a des mots, avant tout le monde parlait en hébreu, mais après, à Kadosh Baruch Hu leur a donné la punition, c'est de là que c'est venu toutes les langues qu'on a aujourd'hui. Enfin, la base des langues qu'on a aujourd'hui. Et le Shlach Kadosh dit qu'il y a des mots de la langue hébraïque qui ont été perdus. Qui ont été perdus chez les nations. Alors, on ne les connaît pas tous, d'accord? Mais le mot Tat et Pat, c'est des mots qui étaient à la base en hébreu. C'était des variantes pour dire deux en hébreu. Et ils ont été perdus. Et c'est pour ça que la Torah a fait exprès de choisir ce mot-là, Totafot, pour dire deux. D'accord? C'est ce que nous dit le Shlach Kadosh. Donc on a dit, donc ça c'est les tefillines.
Comment on aurait su alors?
Et enfin, c'est les chachamim, sans les chachamim on l'aurait pas su. Et je finis, Urtaftam al mezuzat betecha ubisharecha. Donc tu devras écrire ces divrei Torah, donc toujours ces paroles de Torah, ces paroles de Torah que tu devras dire constamment, que tu devras écrire sur les tefillines, parce qu'à l'intérieur des tefillines il y a des divrei Torah. Mm-hmm. D'accord? Tu devras aussi les écrire al mezuzat betecha, donc al mezuzat betecha sur les sur les frontaux de tes portes, donc a priori les frontaux c'est au pluriel. Donc normalement on aurait dû mettre une mezouza sur chaque frontal, comme ça on dit. D'accord ? Sur chaque côté. Pourquoi on met que sur un côté ? C'est parce que c'est écrit mezouzot, normalement, on aurait dû écrire avec deux vav. On aurait dû écrire mem, zaïn, vav, tav. Et là c'est écrit avec un seul vav.
Donc
de là on apprend, de là les chamim ont appris que c'est une seule mezouza qu'il faut. Mezuzot betecha, donc sur les mezuzot de tes portes, ou visharecha, d'accord? Donc sur les mezuzot, pardon, de ta maison, ou visharecha est dans tes portes. C'est quoi cette histoire dans tes portes? Rachid dit que c'est pour nous apprendre qu'on a l'obligation de mettre une mezuzah, même dans la porte de la cour, même dans la porte du pays, et même dans la porte de la ville. Bien sûr, à condition que ce soit une ville de juifs et un pays de juifs, et ben, s'il y a une porte, il faut mettre aussi une mezuzah. C'est pour ça qu'on te dit, et dans tes portes, dans les mezuzot de ta maison, et dans tes portes, pour dire que c'est quoi est dans tes portes. Ça veut dire partout, même dans ta cour, même dans la porte de la ville. Parce qu'à l'époque, les villes avaient des portes. Même dans les pays. Même
à chaque porte.
D'accord. À chaque porte, c'est votre mezouza. Donc le concept. Donc maintenant, je sais pas si on peut réfléchir à tout ça le matin quand tu fais le chemin Israël. Mais en tout cas, on voit la direction générale. La direction générale qu'on prend ici dans le chemin Israël. C'est qu'on a vu, quand on a dit le chemin Israël, chemin Israël, Hashem Lekono, Hashem Echad, de quoi on pensait? On pensait au fait que Kadosh Baruch Hu est présent dans notre vie. C'est comme on l'a expliqué la semaine dernière. Kadosh Baruch Hu est là à chaque instant de notre vie et que c'est lui qui gère notre vie. Et la direction générale du Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est de dire qu'on doit aimer à Kadosh Baruch Hu avec tout notre argent, tout notre cœur et tout ce qu'on a, et qu'il faut essayer de mettre les paroles de Torah partout. Donc quand je dis partout, ça veut dire lorsqu'on se lève, lorsqu'on se lève, lorsqu'on se couche, lorsqu'on est dans la route, sur notre filin, ça veut dire on s'attache avec, sur les mezuzot, partout. Il faut l'enseigner à nos enfants. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le concept du deuxième paragraphe, du premier paragraphe du schéma, c'est de dire qu'un juif doit constamment être entouré de Torah. Constamment être entouré de Torah et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine avec le deuxième paragraphe du schéma, Vayam Shamoa. Ça
s'arrête ici. C'est un Sefer Torah vivant.
Pardon?
C'est un Sefer Torah vivant.
Belle image, Razak.